Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCF Limousin pour la chronique Europe de la Maison de l'Europe, Centre Europe Direct Limousin. Depuis le 1er janvier 2020, la Croatie, dernier pays à être entré dans l'Union Européenne en 2013, a accédé pour la première fois de son histoire à la présidence semestrielle tournante du Conseil de l'Union Européenne. Nous consacrerons aujourd'hui une chronique à ce pays pour le découvrir sous un angle géographique, culturel, mais également historique et politique. Afin d'en savoir un peu plus sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Foultier, qui est administrateur à la Maison de l'Europe. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Alors, pour commencer, où se situe la Croatie et quelles sont ses particularités géographiques?
Alors, situons la Croatie pour ceux qui n'auraient jamais séjourné dans ce pays ou qui ne l'auraient jamais traversé pour se rendre, par exemple, en Grèce ou en Turquie. La Croatie est en effet une des 6 républiques qui composaient jusqu'il y a une trentaine d'années à peu près le territoire de l'ex-Yougoslavie, comme ses voisins, la Slovénie au nord-ouest, la Serbie au nord-est et la Bosnie-Herzégovine, qu'elle en serre un peu comme une pince et avec laquelle elle a une longue frontière commune. Le territoire de la République de Croatie a justement une forme très curieuse et les cartes la montrent bien comme une sorte de fer à cheval. Alors on assimile généralement la Croatie aux pays balkaniques, les Balkans étant cette chaîne de montagnes qui traverse la région d'est en ouest et qui plonge au sud jusqu'en Grèce. Or que dire encore ? Qu'elle a une grande façade maritime sur la mer Adriatique, en face des côtes italiennes, la côte dalmate, dont nous aurons à reparler, et que sa capitale est Zagreb, une ville de 800 000 habitants au nord du pays. Je voudrais tout de même revenir sur le passé récent et douloureux de cette région du sud de l'Europe, après l'effondrement de la Yougoslavie communiste du maréchal Tito. La Croatie a connu dans les années 90 une guerre de 5 années contre son voisin serbe et les stigmates de cette guerre qui a provoqué l'exil d'une partie de la population sont encore visibles 25 années après.
Alors, vous parlez des Croates. Culturellement, comment définiriez-vous le peuple croate ?
Alors, les Croates ne se considèrent pas comme des Balkaniques. Ils se sentent plus de points communs avec les Allemands et les Autrichiens et avec l'Europe centrale, catholique et baroque, qu'avec l'Europe balkanique, marquée par sa composante orthodoxe et par l'empreinte ottomane. Il faut se rappeler que la Croatie a fait partie pendant des siècles de l'Empire d'Autriche-Hongrie. La langue que l'on parle en Croatie est le croate, qui fait partie d'un ensemble de langues que l'on désignait habituellement sous le terme de serbo-croate. Et elle utilise dans son écriture l'alphabet latin, contrairement aux Serbes, qui eux écrivent en cyrillique. Mais on y parle aussi, chez les jeunes surtout, bien sûr, assez couramment l'anglais et même l'italien sur la côte dalmate, qui fait face, nous l'avons dit, aux côtes italiennes.
Alors, au niveau du tourisme, la Croatie est un pays qui attire de nombreux touristes chaque année. Quels sont ces sites touristiques remarquables pour vous ?
Alors, c'est vrai que la Croatie accueille de nombreux touristes. C'est un petit pays qui ne compte qu'un peu plus de 4 millions d'habitants, mais qui en a reçu en 2017 près de 16 millions. Or, la plupart de ces touristes vont sur la côte dalmate, justement, une côte rocheuse très découpée avec plus d'un millier d'îles et d'îlots que baignent les eaux turquoises de la mer Adriatique. Le paysage y est enchanteur, d'autant plus que nous sommes sous un climat méditerranéen. La mer n'est pas non plus le seul attrait de la Croatie. Les villes et ports qui jalonnent la côte croate sont pour la plupart remarquables, comme Split ou Zadar, mais le premier site touristique croate est celui de la somptueuse ville médiévale de Dubrovnik. Celle de Rijeka, tout au nord de la côte croate, proche de la frontière slovène et pas très éloignée de l'Italie, n'est pas la plus touristique, on dira, de la région. C'est même un important site portuaire et industriel, aujourd'hui, disons-le, en grande difficulté. Rijeka a pourtant été choisie cette année comme l'une des 2 capitales européennes de la culture, avec la ville de Galway en Irlande, et cette année 2020 verra donc s'y tenir à Rijeka de très nombreuses manifestations culturelles et de création.
Alors, comme j'ai pu l'indiquer en introduction, la Croatie est le dernier pays entré dans l'Union européenne. Et comment et dans quel contexte s'est déroulée justement cette adhésion ?
La République croate, après les années de troubles et de guerres qui ont suivi son indépendance, pose sa candidature à l'entrée dans l'UE en 2003. Un long processus de négociation se met alors en place qui impose au pays, quel qu'il soit, un certain nombre d'adaptations. Alors pour la Croatie, ça a été la réforme de la justice, la lutte contre la corruption et le règlement du conflit frontalier avec la Slovénie, entre autres. L'adhésion est approuvée par référendum le 22 janvier 2012. 66,3% des Croates ont dit oui à l'adhésion, mais avec, disons-le, une faible participation électorale. La Croatie adhère officiellement le 1er juillet 2013 et devient alors le 28e État européen.
Alors, 2013, maintenant cela fait 7 ans que la Croatie est membre de l'Union européenne. Quelle est sa situation actuelle au niveau politique, économique, social, où en est-on ?
L'adhésion a été un moyen pour la Croatie de progresser dans la voie de l'État de droit. La corruption, caractéristique des pays ex-communistes, n'a pourtant pas complètement disparu. Le dernier remaniement ministériel de juillet 2019 était lié justement à divers scandales et enquêtes touchant plusieurs ministres. La République de Croatie est un système parlementaire. La fonction de chef de l'État est occupée par Madame Kolinda Grabar-Kitanovic, élue au suffrage universel en 2015, le Premier ministre Andrej Plenković, donc il est depuis 2016, conduit la politique nationale et étrangère. La Croatie se veut comme l'élément stabilisateur de cette région qui a connu, nous l'avons vu, de nombreux bouleversements soutenant les efforts des pays de la région, ceux que l'on appelle les Balkans occidentaux, pour rejoindre l'UE et l'OTAN, dont elle est membre depuis 2009. Sur le plan économique, la Croatie, qui était en récession suite à la crise de 2008-2009, est aujourd'hui en reprise, surtout dans le secteur des services, 2/3 du PIB du pays, avec un important secteur touristique, 19% du PIB, et disons toutefois que 30% de la population reste encore exposée au risque de pauvreté et d'exclusion.
Alors, lors de ces 6 mois de présidence, jusqu'au 1er juillet prochain, quels sont les principaux dossiers qu'aura à gérer la Croatie durant son mandat ?
Rappelons d'abord quel est le rôle de cette présidence dite « tournante » du Conseil de l'Union. Elle a été conçue pour favoriser l'implication dans les affaires européennes des dirigeants et de l'opinion publique du pays à qui elle a été confiée et de renforcer son sentiment d'appartenance à l'Union. En effet, le Conseil de l'UE est, avec le Parlement européen, l'organe législateur de l'UE. Il réunit, selon les sujets traités, les ministres des États membres qui en ont la charge. Ainsi, lorsqu'un État assure la présidence du Conseil, il est chargé à Bruxelles d'organiser les réunions des ministres européens, de fixer les agendas, de travailler à la formation de consensus. Voilà pour le principe. Et en ce qui concerne la Croatie, son Premier ministre a précisé au cours d'une conférence tenue à Zagreb en novembre dernier les grands axes de cette présidence et défini son idée de l'Europe. Je le cite, « une Europe qui se développe, une Europe qui se connecte, une Europe qui protège et une Europe qui a de l'influence ». Le budget est l'une des priorités qu'elle s'est fixée, avec la défense de la politique régionale et de cohésion de l'UE, en relation avec les problèmes démographiques en Europe de l'Est, la Croatie souhaite renforcer le taux de natalité de l'UE. Améliorer la connectivité, renforcer les libertés et l'accès à la justice, réformer le régime d'asile européen commun sont les autres thèmes de travail de cette future présidence. Tout ceci, bien sûr, en conformité avec le programme stratégique du Conseil européen pour 2019-2024 et avec les orientations politiques de la Commission. Les événements de ces dernières semaines ont démontré que le chantier de l'Union européenne en matière d'asile notamment a besoin d'être relancé. La Croatie, qui n'en est qu'à son 3e mois de présidence, devrait y prendre sa part.
Merci Jean-Pierre pour le temps que vous nous avez accordé. Merci aux auditeurs de RCF Limousin. Et à bientôt pour la prochaine Chronique Europe le 26 mars, où vous retrouverez votre animatrice habituelle, Marion.